Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les Guyanais ont déjà obtenu quelques concessions de la part du gouvernement. Il y aura un tribunal de grande instance et un centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni. L'hôpital de Cayenne obtient une aide de 20 millions d'euros. Des policiers et quelques gendarmes sont envoyés en renfort. C'est un début, mais ce n'est rien par rapport aux attentes de la population de ce département d'outre-mer, mobilisée comme jamais depuis des jours. Avant-hier, la Guyane a connu la plus importante manifestation de son histoire, en réunissant 15 000 personnes sur une population de 250 000. Et c'est dans ce contexte que les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer ont entamé ce jeudi une série de rencontres à Cayenne. Cette crise en rappelle une autre, celle de 2009, en Guadeloupe et en Martinique. Il avait alors fallu plus de 40 jours de barrages et de négociations pour aboutir à un accord. En dehors de ces épisodes de fortes tensions sociales, les dom-toms ont bien du mal à exister médiatiquement et politiquement en métropole. Ainsi, la loi sur l'égalité réelle outre-mer a-t-elle été votée mi-février de manière aussi unanime à l'Assemblée nationale qu'anonyme dans les médias. Alors, y a-t-il un océan entre la métropole et ses outre-mer ? Eh bien, c'est avec quatre invités ce soir que nous allons en discuter. Célia Cléry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France O, rédactrice en chef adjointe d'Outre-mer Première, c'est de la radio. Et vous co-animez l'émission Outre-mer Politique, vous la co-animez avec Thierry Moncontour et en ce moment vous recevez les candidats à la présidentielle. Pour discuter avec vous, Jean-Michel Martial, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comédien, metteur en scène et c'est en tant que président du CREFOM que nous avons invité ce soir. Le CREFOM, c'est le Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer qui vise à promouvoir, valoriser et défendre les intérêts des ultramarins. Ça, c'est ce qu'on peut trouver sur le site du CREFOM. Les deux autres invités sont au téléphone. Philippe Jocq, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Vous présidez par ailleurs l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, le LADOM. Vous êtes au téléphone, non pas en Martinique, mais en Belgique, à Bruxelles, puisque vous participez en ce moment à la conférence des régions ultra-périphériques. Et puis, autre invité, non pas là également en Outre-mer, mais à Nantes, il s'agit du sociologue Nicolas Roinsart. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, donc, vos travaux de recherche portent sur les questions d'inégalité dans l'Outre-mer français, en particulier à La Réunion et à Mayotte. Alors la question que j'aimerais vous poser pour commencer cette émission, elle a évidemment trait à ce qui se passe en Guyane. Jean-Michel Martial, est-ce que vous avez été surpris par l'intensité de cette crise en Guyane ? Ou bien est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs qui vous laissaient présager que ça risquait à un moment donné d'imploser ?
Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, ou peut-être que je n'ai pas su lire les signes annonciateurs. Il y en a probablement eu, parce que on s'aperçoit que les élus, comme les gens qui manifestaient, portaient le même message. C'est-à-dire qu'ils sont unanimes sur le constat d'une société ou d'une situation qu'il faut voir changer le plus vite possible. Donc ils ont dû intervenir en tant qu'élus. Il est vrai que moi, je n'ai pas vu tous ces signes. Mais c'est sûr que quand on a parlé de la loi égalité réelle, tous ces signes-là, enfin tous ces problèmes ont été énoncés parce qu'ils nécessitaient une réponse et on est arrivé à proposer des formes de réponse.
Ces signes, vous les avez vus, Célia Cléry, depuis le poste d'observation de journaliste.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, Outre-mer Première France, on traite que de l'actualité de l'Outre-mer. Du coup, on a senti le questionnement sur l'insécurité grandir, bourdonner dans la société de plus en plus. Il y a deux événements qui ont marqué les esprits en Guyane avant la création des 500 frères, dont j'imagine on va parler un peu plus tard. C'est il y a eu un politicien qui s'est fait tuer chez lui, de membre du parti Walwari, qui est le parti de Christiane Taubira. Et ensuite, il y a quelques temps, il y a eu un fait divers, quelqu'un qui s'est fait tuer dans une laverie automatique en allant laver son linge. Et ces deux faits divers-là, ils ont vraiment marqué les esprits et le phénomène de ras-le-bol. Et c'est beaucoup plus que ça sur l'insécurité. Il s'est amplifié à partir de là.
Est-ce que vous avez noté un décalage à Outre-mer Première entre le moment où vous vous intéressez de manière forte à cette crise et le moment où les médias métropolitains commencent à s'y intéresser ? Ou bien est-ce que ça s'est fait de manière quasi simultanée ?
Il y a forcément un décalage. Il y a un décalage horaire, on va dire. Mais c'est vrai qu'il a fallu alerter peut-être un petit peu, parce que nous, maintenant, c'est de la cuisine interne, mais Outre-mer Première, c'est France Télévisions. Télévisions. Il a fallu qu'on alerte aussi France Télévisions en leur disant attention, il se passe des choses en Guyane, ça peut vous intéresser. Et puis c'est logique aussi d'en parler parce que la Guyane est un département français au même titre que n'importe quel autre département français.
Ce temps de décalage qui peut exister, alors du fait de la distance géographique, mais peut-être pas seulement lorsqu'une actualité forte se passe en Outre-mer et le moment où les médias métropolitains s'y intéressent véritablement. Est-ce que vous, Philippe Jocques, vous le constatez régulièrement et vous avez pu le constater dans d'autres épisodes précédents?
Oui, c'est vrai que nous sommes souvent interpellés avec beaucoup de retard. Enfin, les médias nationaux s'intéressent souvent à l'Outre-mer avec beaucoup de retard, sauf quand il s'agit de faits divers ou de mouvements sociaux un peu violents ou un peu brutaux. Cela dit, les signaux, on les avait. Dans le monde socio-économique, on les connaissait. Nous avons eu plusieurs fois des échanges avec les socioprofessionnels de Guyane, qu'il s'agisse des organisations patronales ou de la chambre de commerce, où nous étions alertés sur l'insécurité qui montait de façon grandissante et qui pénalisait les activités, et puis sur tous les problèmes économiques qui étaient récurrents et pour lesquels les Guyanais attendaient depuis longtemps la signature d'un plan de développement qu'ils n'arrivaient pas à obtenir dans les conditions qu'ils souhaitaient avec le gouvernement. Et c'est vrai que c'était récurrent, cette demande.
Alors Nicolas Rouinsard, je rappelle que vous êtes sociologue, vous vous intéressez spécifiquement aux questions d'inégalité à La Réunion et à Mayotte, mais vous vous intéressez plus largement à ce qui se passe dans les Outre-mer. Est-ce que vous faites vous aussi le constat que les signaux doivent être particulièrement forts s'agissant des ultramarins pour que cela puisse arriver jusqu'aux médias métropolitains et aussi jusqu'aux instances politiques métropolitaines?
Oui, alors bon, c'est vrai que vous avez rappelé à juste titre en introduction que ça nous rappelle le mouvement social de 2009 aux Antilles, et c'est vrai que il faut un mouvement social pour qu'on s'intéresse souvent au département d'outre-mer ou une visite d'un candidat à la présidentielle. Ce sont deux événements qui font braquer les projecteurs sur l'outre-mer. Après, à la question est-ce qu'on pouvait le pressentir, moi je l'ai pas forcément pressenti. Par contre, je suis pas surpris parce que quand on a effectivement des sociétés qui cumulent autant d'indicateurs de vulnérabilité, hein, que ce soit le taux de pauvreté, taux de chômage, proportion de bénéficiaires de minima sociaux, etc. On voit bien qu'il suffit d'une étincelle pour que ça s'embrase. Et donc les revendications en Guyane, elles s'expliquent effectivement par cette attente forte vis-à-vis de l'État français pour une mise à égalité vis-à-vis de l'Hexagone. Et c'est vrai que tous les indicateurs, si vous voulez, entre les niveaux de vie de la France hexagonale et de l'outre-mer sont au détriment des outre-mer.
Jean-Michel Martial.
Oui, vous avez vraiment, vraiment tout à fait raison. Quand vous dites les indicateurs de vulnérabilité, on y est vraiment de manière très très précise. On s'aperçoit qu'ils vont dans le même sens, à savoir que tout ce qui concerne la lecture de ces indicateurs, en ce qui concerne l'outre-mer, les outre-mer, ils traduisent toujours une réelle différence entre les outre-mer et l'Hexagone. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté, au détriment des Outre-mer, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans tous les domaines, que ce soit la sécurité, la santé, l'économie, le chômage. Et après avoir tenté, avec l'aide des politiques, d'intervenir, cette parole n'a pas été suffisamment prise en compte quant à l'urgence de la réponse. De passif, le peuple est devenu actif. Mais lui subissait au quotidien ses souffrances. Alors il se débrouillait. On parle de la gentillesse, de la quiétude, du calme. Et puis à un moment donné, ils ont dit, ça ne peut plus durer. Si en France, dans une région particulière, les jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage à plus de 50%, 55%, 60% de la population, je pense qu'il y aurait depuis longtemps des cris, et je pense que depuis longtemps, ils auraient été entendus. Alors, peut-être est-ce l'océan qui fait que ces cris qui ont été poussés là-bas n'ont pas été entendus, mais quand même.
Il y a peut-être une autre raison qui fait que ces cris ne sont pas entendus, en tout cas s'agissant du chômage, puisqu'on parle d'indicateurs. Il y a quelque chose qui est surprenant chaque mois, à chaque fois que l'INSEE publie ses statistiques du chômage. Alors d'abord, ça se limite en général aux chômeurs de catégorie A, mais ce sont les chômeurs en France métropolitaine, Célia Cléry. C'est-à-dire que finalement, le chômage des Outre-mer n'apparaît pas tout de suite dans les statistiques. Il faut quand même aller le chercher. C'est pas évident d'ailleurs de trouver des données qui soient fiables sur ce sujet. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ça peut aussi contribuer à faire un peu disparaître symboliquement l'outre-mer du reste du territoire?
Ça s'explique tout simplement parce que c'est un jeu statistique. Si on additionne les chiffres du chômage en Outre-mer aux chiffres hexagonaux, eh ben ça fait monter le chômage, tout simplement. Et c'est pour ça que pendant longtemps, parce que maintenant ils sont quand même publiés, on les prenait pas en compte. C'est tout bête, c'est aussi bête que ça. Après, je pense pas que ça soit... c'est pas ça qui fait disparaître les Outre-mer du champ médiatique et de la pensée quotidienne de l'Hexagone. Je pense qu'il y a à la fois la distance, la méconnaissance, une forme de désintérêt aussi sans doute des médias et du coup des populations.
En tout cas, ça peut-être être perçu aussi par les ultramarins comme une forme de discrimination, c'est-à-dire même si ça apparaît dans les statistiques, le fait qu'on n'en parle pas, on crée forcément des gens à part, quoi.
Ben oui. C'est un peu la revendication des ultramarins. Vous l'entendrez souvent nous dire est-ce qu'on est entièrement à part ou français à part entière.
C'est une grille de lecture, mais c'est forcément discriminant. Maintenant, est-ce qu'on peut le voir comme une insulte ou est-ce qu'on peut le voir comme quelque chose à réparer ou quelque chose sur lequel il faut travailler? C'est un degré de réaction, mais la réalité, c'est qu'il y a discrimination.
Nicolas Roinsard.
Oui, sur la question des indicateurs, bon, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a tout un tas d'études de l'INSEE qui vont être effectivement réalisées outre-mer. Il y a aussi des études qui vont être réalisées uniquement en métropole. Et donc nous, en tant que chercheurs, des fois, il faut se battre pour trouver de la donnée ou éventuellement la retricoter. Sur la question du chômage, alors évidemment, dans une bataille des chiffres, il peut être judicieux de ne pas ajouter le chômage outre-mer qui est 2 à 3 fois plus important qu'en métropole. Mais quand on regarde les chiffres, bon, c'est à la marge, hein, ça augmente de 0,3-4 points, quoi. Donc c'est pas forcément énorme, mais c'est vrai que ça pose quand même question. Et puis plus largement sur les indicateurs statistiques, que ce soit au sens du recensement de la population, au sens du BIT, ce sont quand même des indicateurs très eurocentrés avec des critères très exigeants autour de la recherche d'emploi, de la disponibilité. Et ce qu'on sait outre-mer, c'est qu'il y a un tel niveau de chômage, notamment chez les jeunes, effectivement entre 50 et 60%. Ça peut être 75% chez les non-qualifiés, que finalement on observe des comportements de retrait du marché du travail et aussi de retrait du service public de l'emploi. Et donc on a aussi un nombre de chômeurs découragés extrêmement important qui échappe à la statistique publique, quoi.
Donc ce traitement à part, il peut aussi peut-être être lié au fait qu'il y a une spécificité de l'outre-mer en matière d'emploi et donc de chômage, Philippe Jocques.
C'est sûr que nous avons un double problème. Nous avons un problème de qualification, parce que quand on parle de chômage, on a un certain nombre de jeunes non diplômés qui sortent du système scolaire sans qualification et qui, eux, sont inemployables. Et donc, c'est vrai que, comme le disait l'intervenant précédent, très vite, ils sont exclus du système. Ils ne sont plus en recherche d'emploi parce qu'inemployables. Et donc, la relation est faussée. Et c'est sûr que on a un poids d'économie souterraine qui fait que globalement, ça n'a pas explosé au plus fort avant, parce qu'il y a toute cette économie informelle qui permet aux uns et aux autres de s'en sortir, avec la conséquence que nous connaissons aujourd'hui, qui est cette violence, et qui est en partie liée à des phénomènes d'économie souterraine ou de bandes que nous ne connaissions pas par le passé.
Alors si ça n'a pas explosé plus fort avant en Guyane, ça avait quand même explosé, je le rappelais en tout début d'émission, en 2009 en Guadeloupe et en Martinique, bien entendu. Alors il faut faire attention avec les comparaisons, hein, les crises ne sont pas exactement les mêmes. Vous allez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez, mais écoutez comment on en parlait sur Télé Martinique. Nous sommes le 5 février 2009, à ce moment-là, les Martiniquais entrent dans la grève.
La Martinique se met, elle, au point mort. Un appel à la grève générale a été lancé par une intersyndicale pour l'amélioration des conditions de vie et du travail. Du coup, en prévision de ce jeudi noir, les stations-services et les supermarchés ont été pris d'assaut hier. Les Martiniquais ont aussi été invités à montrer leur solidarité envers les Guadeloupéens.
Solidarité à la Guadeloupe !
Un ruban rouge accroché à l'antenne des véhicules. L'initiative revient au collectif guadeloupéen Lionnage contre Profitation. Depuis jeudi, c'est la bannière de ralliement au mouvement contre la vie chère.
Moi, j'estime que tous les Antillais de toute la Caraïbe doivent être solidaires entre eux pour quel que soit le mouvement, oui.
Nous aussi, nous sommes concernés et j'espère qu'à partir de demain, on va élever la voix pour ça justement.
Un ralliement qui se veut au-delà de la logique des partis ou des syndicats.
Alors, je reviens tout de suite vers le président de la CCI de Martinique, Philippe Joc. Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement social en Guadeloupe et en Martinique a marqué une date importante dans l'histoire des Outre-mer, des Antilles, bien sûr, des Outre-mer, en tout cas, qu'il y a eu peut-être un avant et un après dans la façon d'appréhender ce qui peut se passer dans ces territoires?
Bah, très, très clairement, du point de vue économique, nous payons encore aujourd'hui les conséquences de ce mouvement social. Le point de départ, je le rappelle, c'était...
Vous les payez ou vous en bénéficiez aussi? Parce qu'il y a eu quand même un accord et il y a eu des choses qui ont été décidées.
Non, mais du point de vue économique, nous n'avons pas rattrapé le niveau, ou à peine rattrapé le niveau de PIB que nous avions en 2008. Ça a eu des conséquences assez dommageables sur les entreprises martiniquaises et guadeloupéennes. Et c'est vrai que nous avons du mal à imaginer repartir sur un mouvement social de cette ampleur. Cela dit, je rappelle qu'en 2009, la problématique initiale, c'était la problématique de vie chère, alors qu'en Guyane, les revendications sont beaucoup plus larges et couvrent un champ important, et notamment une partie régalienne forte, tout ce qui a trait à l'insécurité, au foncier, à l'énergie, à la santé, par exemple, qui étaient des problématiques qui n'étaient pas mises en avant en 2009 aux Antilles. Donc je pense que la base du conflit, ou la base de la revendication sociale n'est pas la même.
Jean-Michel Martial.
Oui, je reprends tout à fait cette idée, et puis je rebondis sur ce que vous disiez de manière un petit peu provocatrice. S'il payait ou s'il bénéficiait justement de ce qui s'est passé, il suffit de demander aux directeurs d'entreprise qui ont pu faire faillite s'ils bénéficiaient ou s'ils payent ce qui s'est passé auparavant. Mais ça m'emmène à dire que...
Quand
oui,
je dis ça, c'est aussi parce que quand il y a un mouvement social, il y a des revendications, et quand une partie des revendications sont acceptées, on peut considérer qu'il y a des progrès derrière.
Heureusement, c'est d'ailleurs pourquoi cette grève est maintenue et pourquoi les pouvoirs publics y répondent de la manière la plus positive qui soit. Mais je veux dire qu'au-delà de la délinquance, au-delà de l'insécurité, on s'aperçoit que ces problèmes de sécurité, de délinquance sont liés à la formation, à l'éducation. Ils sont liés également à l'industrie et à l'économie. Il y a des différences notables entre l'Hexagone et ce qui se passe là-bas. Il suffit de regarder le nombre d'entreprises justement qui font faillite dans les Outre-mer, en termes de pourcentage, et si on compare au nombre d'entreprises qui font faillite en Hexagone, vous verrez que c'est largement défavorable au niveau des Outre-mer. Le temps que mettent les factures pour être honorées par les services de l'État lorsqu'elles sont émises en Outre-mer, c'est de l'ordre de 60 à 75 jours le plus souvent, et le plus rapidement possible. En France, c'est 30 jours. Entre 20 et 30 jours. Alors, il y a des choses comme ça qui sont concrètes, qui font qu'il est beaucoup plus difficile d'équilibrer un budget quand on fait de l'économie. Moi, je suis comédien, mais en tout cas, ça, c'est suffisamment simple pour que je le comprenne. Il est beaucoup plus difficile d'organiser économiquement sa structure et sainement sa structure quand on est là-bas. Il y a des particularités qui peuvent être améliorées.
C'est un constat que vous partagez, Nicolas Romassard, à travers les recherches que vous faites?
Oui, disons qu'il y a toute une littérature, alors peut-être davantage d'ailleurs en sciences économiques, hein, sur les contraintes des économies insulaires auxquelles donc sont soumis les départements français d'outre-mer. Il y a une étroitesse du marché, il y a des situations de monopole qui font qu'effectivement, alors, c'est d'ailleurs la problématique de la vie chère, hein, qui avait d'abord été un peu l'étincelle en 2009. Mais quand même juste sur ce mouvement de 2009, bon, il y a eu toute une littérature un petit peu a posteriori qui a essayé quand même d'aller au-delà de l'événement, où l'originalité du mouvement en Martinique, c'est quand même qu'il a quand même mis sur la scène publique la question sociale, et notamment la reconduction des positions dominées et dominantes dans l'espace social. C'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose dans le mouvement contre la profitation, c'était contre à la fois le capitalisme et le néocolonialisme, et c'est vrai qu'il y a quand même cette reproduction sociale qui est latente un peu dans tous les Outre-mer, et c'est quand même assez nouveau qu'il y ait finalement cette question un peu de l'héritage historique aussi prégnant qui apparaissent dans les revendications. Et puis juste un mot là-dessus pour aussi voir comment ça a marqué les esprits. Alors quand vous lisez le rapport de Victorin Lurel paru en 2016, donc qui est vraiment le rapport qui a inspiré la loi sur l'égalité réelle outre-mer, même le ton qui est utilisé tranche, si vous voulez, avec les rapports parlementaires qu'on peut lire depuis 10, 15, 20 ans sur l'outre-mer, en règle générale. On parle juste de développement et d'obstacles et de leviers pour parler de développement. Et là, dans l'avant-propos de ce rapport, il y a des termes comme post-esclavagiste, post-colonial, société plantationnaire, etc., etc. Et donc, on voit bien comment ce mouvement, quand même, a fait bouger les lignes petit à petit et que cette loi promulguée très récemment sur l'égalité réelle dans les Outre-mer, finalement, est un peu l'aboutissement, en tout cas politique, d'un mouvement social démarré il y a 7-8 ans.
C'est de la clarifier. Si le mouvement de 2009 en Guadeloupe et Martinique est différent de celui d'aujourd'hui en Guyane, est-ce qu'il y a cet héritage historique du mouvement qu'on peut ressentir aujourd'hui chez les Guyanais, en tout cas peut-être sur les modalités d'action, par exemple, de dire, bah voilà, il faut qu'on frappe fort, parce que c'est en frappant fort qu'on a peut-être des chances d'être entendu.
Mais déjà, ce dont il faut se souvenir, c'est que ce mouvement de 2009, il a commencé en 2008, en fait, en Guyane. Tout était parti du prix du carburant et ça a fait tache d'huile, sans mauvais jeu de mots. Et ça s'est étendu aux Antilles, même jusqu'à La Réunion et à Mayotte. Après, effectivement, le mouvement d'aujourd'hui en Guyane, il n'a pas grand-chose à voir sur les revendications, sur le fond. C'est ce que tout le monde dit ici autour dans ce débat. Effectivement, avec ce qui s'était passé en 2009, parce que tout était parti de la vie chère. Il y a une loi sur la vie chère qui a été votée d'ailleurs, qui s'appelle la loi Lurel, puisqu'elle a été votée à l'époque où Victorin Lurel était ministre des Outre-mer. On s'est rendu compte que finalement, ça n'avait pas tellement fait baisser les prix, parce qu'il y avait toute une polémique sur le mécanisme de formation des prix, finalement. Après, derrière tout ça, il y a forcément une revendication statutaire. C'est ce que disait le dernier interlocuteur, effectivement. Il y a une revendication forcément statutaire. Et derrière ça, la question de la place des Outre-mer au sein de la République qui apparaissait en 2009 en filigrane et qui apparaît en Guyane dans ce conflit. Et c'est tellement vrai que j'ai vu qu'il y avait un mouvement certain indépendantiste en Guyane, le MDES, qui pose clairement dans le débat d'aujourd'hui en Guyane cette question. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le statut de la Guyane département français aujourd'hui ?
Alors, y a-t-il un océan entre la métropole et ses Outre-mer ? C'est donc la question que nous posons ce soir à Célia Cléry, rédactrice en chef adjointe de la radio Outre-mer Première, à Philippe Jogues qui préside la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, au sociologue Nicolas Roinsard et au président du CREFOM, le comédien Jean-Michel Martial, CREFOM, conseil représentatif des Français de l'Outre-mer. On parle des Outre-mer hein, ce soir, on ne parle pas de l'Outre-mer. Est-ce que... un des problèmes, alors c'est peut-être pas le plus important, sans doute pas le plus important, mais les mots le sont. C'est pas un comédien que je vais, il y a un metteur en scène que je vais apprendre ça. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, en tout cas en métropole, peut-être à essentialiser l'outre-mer, à la voir comme un bloc, alors qu'il faudrait peut-être davantage la considérer dans sa diversité et de pas considérer que ce qui se passe par exemple en Martinique, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe, mettons, à Mayotte, à La Réunion, ou dans d'autres territoires. Jean-Michel Martial.
Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste et je pense qu'on en a pris conscience. On en a pris conscience. C'est une grande habitude. La France est ethnocentrique. Voilà. Il y a Paris et puis il y a le reste de la France. Il y a la France et puis il y a les territoires d'outre-mer. Voilà. Ça pense comme ça en France. C'est comme ça depuis tout le temps. Alors que chaque lieu a sa réalité. Chaque lieu a sa réalité et ses contraintes, son environnement socio-culturel qui impacte directement le mode de vie des uns et des autres. Maintenant, depuis que nous commençons à réfléchir, et les hexagonaux et les non-hexagonaux à réfléchir ensemble à améliorer la situation, on considère et on constate qu'il y a effectivement des particularités. Moi, je sais que... Y a-t-il un océan ? Oui, il y a un océan. C'est une réalité. H2O, ça s'appelle. Il y a un océan, il y a de l'eau, plus du sel, plus X choses. Il y a un projet républicain. Il y a un projet républicain et ce projet dit liberté, égalité, fraternité. L'égalité, ça nécessite et ça implique la continuité territoriale. C'est un projet, c'est un pari, c'est une ambition. On ne dit pas qu'il n'y a pas de différence, on dit que les différences, nous allons les gommer au nom d'un projet que nous allons construire ensemble. C'est ça la République française. Donc maintenant, nous posons les mots sur une réalité et nous disons avançons ensemble en étant conscients du chemin que nous avons à parcourir.
Voilà, une continuité territoriale avec des contraintes géographiques notamment et politiques qui sont pas minces, Philippe Jogues.
Oui, nous avons des caractéristiques que l'on connaît, un isolement, un éloignement par rapport à l'Hexagone. Et ce que dit Jean-Michel Martial sur la continuité territoriale est essentiel. C'est une des revendications très fortes des ultramarins. C'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes français, Nous avons des prix de billets qui sont exorbitants, donc ne serait-ce que pour ceux qui sont installés dans l'Hexagone, revenir dans leur territoire d'origine, c'est un coût élevé, c'est pas possible, c'est compliqué. Et les dispositifs d'accompagnement de ces retours sont très très réduits, très réduits. L'Agence pour la mobilité des Outre-mer intervient avec des budgets qui ont été divisés par trois au cours des dernières années, et donc une difficulté certaine.
Alors des budgets divisés par trois, mais sans doute que en cette période particulière, qui est la période de la campagne présidentielle, il y a des revendications qui peuvent peut-être avoir rencontré des oreilles attentives, même si on sait ce que valent les promesses, elles ne sont pas toujours tenues. Célia Cléry, il y a un certain nombre de candidats qui font, semble-t-il, la tournée un petit peu obligatoire des Outre-mer lorsqu'ils sont justement en campagne présidentielle. Comment est-ce que ça, justement, c'est vécu par les ultramarins? Est-ce que c'est l'occasion justement de faire passer des revendications, ou bien est-ce qu'on sait très bien que qu'il n'y a pas forcément une très bonne connaissance de ces territoires? Je vais pas revenir sur la fameuse phrase d'Emmanuel Macron à propos de l'île que serait la Guyane.
Mais c'est-à-dire que les Outre-mer, c'est 2,6 millions d'électeurs, donc ça compte, ça peut faire basculer une élection dans un sens ou dans un autre. Il y a un précédent qu'on cite parfois, c'est 2002, quand Christiane Taubira s'est présentée au premier tour de l'élection présidentielle, et on a dit que si Lionel Jospin avait perdu, c'est justement parce que les Outre-mer avaient choisi Christiane Taubira. Voilà. Après, à partir de là, effectivement, il y a un passage obligé, pas pour tous les candidats, mais un certain nombre. On a vu Emmanuel Macron récemment à La Réunion et à Mayotte. C'est là d'ailleurs qu'il a parlé de la Guyane comme une île. On a vu François Fillon, Marine Le Pen se déplacer, effectivement. Leur intérêt, c'est d'aller à la rencontre, effectivement, des gens pour donner le sentiment réel ou supposé aux ultramarins qu'ils s'intéressent véritablement à leurs problèmes.
Pour vous assurer d'ailleurs qu'ils s'y intéressent vraiment, vous avez entamé une série d'entretiens avec des candidats à la présidentielle. Alors j'ai vu que pour l'instant, en tout cas sur le site d'Outre-mer Première, vous avez reçu François Asselineau et Nathalie Arthaud. Oui. Est-ce qu'ils connaissent bien l'Outre-mer ?
Ils connaissent bien l'Outre-mer. Nathalie Arthaud, elle reconnaît par exemple que elle ne connaît pas bien l'Outre-mer, et il y a une politique aussi bien de Lutte ouvrière que du parti de Philippe Poutou, du NPA, de ne pas aller faire de meeting, justement, de ne pas aller à la rencontre des ultramarins, parce qu'ils disent, nous on dénonce ce que font les autres politiques, c'est n'y aller que quand il y a des voix à prendre, et ne pas s'intéresser à l'Outre-mer le reste du temps. Ils ont des relais sur place, des mouvements, des partis locaux, et c'est par eux qui font passer leur message. Donc, après, les autres, par exemple sur la Guyane, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire, on est tous Guyanais. Maintenant, un exemple tout simple, nous on invite Jean-Luc Mélenchon à venir justement s'entretenir sur François dans le cadre de ses entretiens avec les ultramarins. Pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile de faire venir François Fillon, c'est difficile de faire venir Emmanuel Macron et Benoît Hamon. Et pourtant, on est tous Guyanais.
Vous, Jean-Michel Martial, vous nous avez dit en préparant l'émission, alors que comme président du Conseil représentatif des Français de l'Outre-mer, vous avez sollicité les candidats à la présidentielle, sauf Marine Le Pen, je crois. Pour quelle raison d'ailleurs ?
C'était un choix que j'ai assumé.
Ah ben voilà une réponse. Ceux que vous avez sollicités, vous ont donné quelle réponse ?
Oui, pour ceux qui nous ont répondu et ceux que nous avons sollicités, ils n'ont pas fermé la porte. Par contre, il était impossible de fixer un rendez-vous ferme. Ça va venir pour certains. On n'a pas encore. Ça sera pas possible de rencontrer Monsieur Intel, mais son représentant viendra peut-être. En tout cas, aujourd'hui à cette heure, aucun rendez-vous précis n'a été pris. Ça va venir, mais aucun rendez-vous précis n'a été pris. C'est pour ça que j'en ai parlé de manière très très violente l'autre jour devant une radio concurrente.
C'était sur Europe 1.
C'était pour faire en sorte qu'il y ait une réaction et puis que les gens se disent effectivement nous avons mission de rencontrer effectivement le Conseil représentatif des Français d'outre-mer.
Alors il faut dire à la décharge des candidats à la présidentielle qui sont extrêmement sollicités. Mais est-ce que vous considérez par exemple Philippe Jocques qu'il y a une mauvaise connaissance de ce que représentent les ultramarins dans le personnel politique en général?
Mais très clairement, c'est une des grandes difficultés des Outre-mer, c'est que depuis de nombreuses années, il n'y a plus aucun politique d'envergure nationale qui s'intéresse aux Outre-mer. Donc certes, quand ils viennent faire la tournée électorale, on sait bien qu'ils viennent rechercher des voix, mais c'est aussi l'occasion pour nous de les mettre face à nos réalités économiques. Et donc, c'est vrai, on n'est pas dupe du fait qu'ils sont à la recherche de suffrages et que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. mais c'est aussi l'occasion pour nous de présenter nos projets, de présenter nos ambitions et d'expliquer combien les Outre-mer peut être une chance pour la France, ce que vu de Paris, nos politiques n'intègrent pas. Quand on leur dit, mais vous voyez, la biodiversité française, elle est dans les Outre-mer, l'espace économique maritime de la France, c'est les Outre-mer, 11 millions, ce sont les Outre-mer qui vous apportent toute cette richesse et toute cette présence mondiale. Et donc, pour nous, quelque part, même si c'est pas assez souvent, quand ils viennent, on est content de les voir et d'insister auprès d'eux.
C'est de la clairie.
Il y a quelque chose de très drôle, pour rebondir sur ce que disait Philippe Bjork, c'est que tous les politiques vous diront que les Outre-mer, c'est une chance pour la France et que c'est une richesse pour la France. Mais souvent, le constat, il s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça, effectivement. Et c'est tellement vrai que vous parliez tout à l'heure de la loi sur l'égalité réelle, en disant dans votre préambule qu'elle était votée à l'unanimité. Mais si vous regardez bien l'hémicycle au moment du vote, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, il n'y a que les parlementaires d'outre-mer. Les parlementaires hexagonaux ne participent ni au débat, ni au vote, en règle générale, sur les lois qui concernent l'outre-mer.
Ce ne sont pas les seules lois, d'ailleurs, pour lesquelles il y a de l'absentéisme.
Peut-être oui, que voilà. Mais c'est flagrant de constater que chaque fois qu'il y a des lois qui concernent l'outre-mer, la loi sur la vie chère, la loi sur l'égalité réelle, ceux qui sont dans l'hémicycle, ce sont les parlementaires d'outre-mer, c'est-à-dire les députés de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion. Les autres ne sont pas là. Et ne prennent pas part au vote.
Jean-Michel Martial.
Moi, je me demande s'il n'y a pas un esprit de suffisance. Excusez-moi, mais je vais être frontal. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit de suffisance dans le regard des hexagonaux, globalement, vis-à-vis de ce qui n'est pas hexagone. Et dans ce cas-là, alors si on admet qu'il y a un regard de suffisance, je me dis, mais pourquoi ? Est-ce que ça correspond à un complexe de supériorité ? Si oui, ça s'appelle une maladie, et ça se soigne. Et par rapport à ça, je reviens à l'éducation. Que nous apporte les Outre-mer ? Qu'apportent les Outre-mer ? Un homme est un homme. Essayons de travailler sur cette idée-là. Parce que s'il y a un complexe d'infériorité d'un côté, dans la même seconde, il y a un complexe de supériorité. Les deux, c'est une maladie.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Il y a peut-être aussi un complexe d'infériorité. Est-ce qu'il peut
inculquer savamment à un certain moment ? C'est pour ça que l'histoire revient, et ça s'appelle l'esclavage.
Est-ce qu'il peut y avoir aussi... peut-être que ma question va vous choquer un petit peu, mais une forme de complaisance des ultramarins à être comme ça toujours les victimes de la métropole. Est-ce que ça, c'est une question qui peut être audible pour vous, Jean-Michel
Martial ? Mais non seulement la question est audible, mais elle est très intéressante. Ça s'appelle la posture victimaire. Alors, est-ce qu'on peut rester dans une posture victimaire ? Vous avez probablement raison, à un certain pourcentage, et c'était il y a quelque temps. En ce moment, moi, je joue dans une pièce de théâtre qui est moliérisée, elle est nommée 7 fois au Molière. Pourquoi j'ai accepté ce rôle ? Parce que mon personnage disait, lorsqu'il ouvre la bouche, il dit « Croyez-vous que jamais je n'ai dû me battre pour garder ce café ?» Rien que cette phrase-là, j'ai dit « Ok, je fais la pièce. » Pourquoi ? Parce que dans cette phrase-là, il y a la constatation qu'effectivement il y a des difficultés, effectivement il y a des problèmes, mais nous sommes au-delà de ces problématiques, nous sommes déjà vainqueurs. Notre réalité aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes ultramarins, ceux qui ont réussi à bénéficier de l'enseignement de la République après les efforts de leurs parents et les efforts qu'ils fournissent eux-mêmes, c'est qu'ils sont brillantissimes. Et ils apportent quelque chose de ce projet commun dont je parlais tout à l'heure. Et il n'y a pas... Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'infériorité, il y a simplement quelque chose qu'on peut faire. Et nous savons très bien que nous avons responsabilité de donner au monde la quintessence de notre talent. Et il y a des gens qui ont un talent extraordinaire. Il n'y a pas de victime là. Il y a simplement, nous avons quelque chose à construire ensemble. Laissez-nous le faire, laissez-nous donner ce que nous avons à donner. C'est notre responsabilité, mais la vôtre est de nous permettre de donner ce talent.
Nous avons cette responsabilité, nous dit Jean-Michel Martial. Est-ce que nous avons aussi, enfin, en tant qu'ultramarin, je me mets dedans, mais je ne le suis pas, hein, Philippe Bjork, des responsabilités aussi par rapport à ces situations que vous décrivez ?
Certainement qu'on n'a peut-être pas toujours été force de proposition. Et aujourd'hui, ce que je peux noter, c'est que quand vous interrogez les gens de l'Hexagone, à quelques niveaux qu'ils se trouvent, ils n'ont qu'une proposition à faire pour les Outre-mer. C'est à nous, ultramarins, d'être force de proposition. C'est à nous de savoir ce que nous souhaitons comme développement économique. C'est à nous de leur dire que le modèle qui était basé sur la redistribution a atteint ses limites. Et qu'aujourd'hui, le développement de nos territoires passe par un développement économique basé sur l'entreprise et la création de richesses et de valeurs, et plus par les transferts sociaux. C'est nous qui devons porter ce discours-là, et c'est nous qui devons ensemble, tous ensemble, tous les ultramarins, à dire ben, pour tel territoire, nous souhaitons développer le tourisme, en faire le fer de lance, pour tel autre, ça peut être le développement de la production locale ou d'autres activités. Mais il faut vraiment que nous soyons sur des propositions concrètes, et l'élection présidentielle, c'est aussi l'occasion de faire passer ces messages-là.
Alors, je suis pas sûr que ça ait un quelconque rapport avec l'élection présidentielle, mais si mes informations sont bonnes, Nicolas Roinsart, vous deviez être auditionné ce jeudi par la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les situations de pauvreté et d'exclusion dans les Outre-mer. Là-bas, est-ce que c'était bien le cas? Et si oui, qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, c'était forcément très long et là, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais...
Je vais le faire de manière raccourcie. Effectivement, et ça revient un petit peu à ce que je disais au tout début, hein, sur tous ces indicateurs de vulnérabilité, c'est-à-dire que le taux de pauvreté est entre 3 et 4 fois plus important outre-mer, taux de chômage 2 à 3 fois plus important, couverture en termes de minima sociaux également. Et c'est vrai que on prononce beaucoup le mot égalité, et il est inscrit dans la loi sur l'égalité réelle. Et c'est vrai que quand on fait une petite histoire finalement de la notion d'égalité appliquée aux Outre-mer, ça commence en 1848 où on obtient donc l'égalité civile avec notamment l'accès au suffrage universel, et puis bon, 1848 c'est évidemment la date de l'abolition de l'esclavage. On a en 1946 un deuxième temps de l'égalité avec l'égalité politique, l'assimilation législative, des départements de plein exercice. On a au début des années 2000 ce qu'on a appelé l'égalité sociale, où finalement il y a vraiment l'alignement des prestations sociales et familiales sur les niveaux en vigueur en métropole. Donc il aura quand même fallu 50 ans depuis la loi sur la départementalisation pour qu'il y ait vraiment une égalité sociale en termes de droits. Et elle est encore un petit peu imparfaite aujourd'hui et complètement, on va dire, décalée à Mayotte, puisque l'alignement est prévu sur 15-20 ans. Et puis donc, finalement, l'objectif de la loi aujourd'hui à horizon 2030-2040, c'est de parvenir à l'égalité réelle. Donc l'égalité réelle, c'est quoi? C'est parvenir au même niveau de vie que ceux de la France hexagonale, c'est-à-dire évidemment en termes de PIB par habitant, qui aujourd'hui est 40% inférieur dans les DOM qu'en métropole. Avoir des niveaux de pauvreté, de chômage, d'emploi, etc., à peu près équivalents à ceux observés en métropole. Donc vous voyez, cette quête égalitariste, finalement, elle court quand même sur 200 ans. Donc c'est vrai que c'est un combat qui est long et qui, j'espère, pour le coup, avec notamment cette loi qu'on va surveiller de près, aboutira enfin, quoi.
Voilà, les lois qu'il va falloir laisser le temps de se déployer, hein, parce qu'elle vient tout juste d'être votée. Donc évidemment, elle n'a pas encore démontré ses effets. Je voudrais qu'on termine, Célia Cléry, presque de la manière dont on a commencé, puisque je vous demandais s'il y avait des signaux annonciateurs de cette crise en Guyane. Bon, aujourd'hui, ça y est, les médias hexagonaux, vous dites pas métropolitains d'ailleurs, vous dites hexagonaux. Bon, alors je vais retenir ce terme-là, les médias hexagonaux s'y intéressent. Est-ce qu'il y a d'autres territoires, d'autres situations auxquelles on aurait intérêt à s'intéresser de très près? Parce que là aussi, vous voyez des signaux faibles qui pourraient donner des choses... intéressante, inquiétante pour la suite.
Je ne sais pas si c'est inquiétant. En tout cas, la Guadeloupe, aujourd'hui, a apporté son soutien à la Guyane. Donc, est-ce que demain, il pourrait y avoir un mouvement du même type en Guadeloupe à suivre? Et puis, le territoire qu'il faut suivre, c'est Mayotte, je pense. Parce que Mayotte est un département français depuis 2011, avec un retard, effectivement, de développement beaucoup plus important du fait d'un statut plus tardif. Et les problèmes qu'on observe en Guyane d'insécurité, d'immigration, de mécontentement des populations, d'accès à l'éducation, à la santé, ils sont également présents à Mayotte.
Ouais, garder un œil sur les Outre-mer et le garder en permanence, hein, c'est sans doute ce qui serait l'idéal. Merci beaucoup en tout cas à vous quatre d'avoir participé à cette discussion. Célia Cléry, Jean-Michel Merci. Martial, Nicolas Roinsart et Philippe Joc. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre.
Merci.
Un grand merci à l'équipe du Grain, Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Fabien Laléouze. Demain, ce sera le Club des idées du grain comme chaque vendredi. Émission consacrée à la fidélité ou l'infidélité, c'est comme vous voulez, en politique. Émission qui sera présentée par Mélanie Chalandon, que vous retrouverez également tout au long de la semaine prochaine.